Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
De nouveau samedi, et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire. Dans ce nouveau numéro de Faso IAFA, nous allons vous amener à Boromo dans la boucle du Moun pour vous faire découvrir les difficiles conditions de personnes à déplacer internes. Exposées aux intempéries en raison de la précarité de leurs habitations, elles font toutefois preuve de résilience. Elles nous partagent leur vécu dans un instant. Vivre dans de pareilles conditions peut affecter la santé physique et mentale selon le docteur Karim Kombasséré. Il donne des conseils pour limiter les risques d'infection. Les deux amis Momo et Nafou s'intéressent cette semaine à la sécurité des tout-petits. Ils partagent avec nous les réflexes de sécurité à apprendre aux enfants dans un contexte d'insécurité. Voilà entre autres les sujets qui seront développés dans cette émission. Bonsoir et merci de nous suivre. Je suis Micheline Guigma à la présentation. Au secteur 6 de Boromo, dans la boucle du Moun, une dizaine de ménages déplacés s'est installée sur un site improvisé que leur a cédé un natif de la localité. Leur tente, réalisée à base de matériaux faciles d'accès comme du bois et des bâches plastiques, ne résiste pas aux intempéries. Le terrain étant situé sur une zone de passage des eaux de pluie, ils sont obligés de dormir dans l'humidité quand il pleut. Et en période de froid, il leur est tout aussi difficile de trouver le sommeil la nuit. Ils nous parlent de leurs conditions de vie dans ce reportage de Awa Muniratu Tankwan.
Boromo, dans la boucle du Moun. Nous sommes au secteur 6. C'est ici que Mumuni Ouedraogo et plus d'une cinquantaine de personnes originaires de Gorgagui ont tenu domicile. Dans cet espace d'environ 1000 m², des tentes de fortune érigées avec des bâches créent le contraste avec les habitations. Pendant la saison pluvieuse, les conditions de vie y sont particulièrement désagréables. La pluie transforme leurs abris en une mare de boue et de retenue d'eau. L'eau s'infiltre même à travers les coutures déchirées des bâches et crée des flaques à l'intérieur. Enfants comme adultes ont du mal à trouver un endroit sec pour dormir. Mumuni explique leur calvaire.
Nous achetons du bois qui nous sert de poteaux et des bâches pour couvrir le toit. Nous cherchons ensuite du sable pour étaler à l'intérieur de sorte que l'eau ne puisse pas entrer. Mais malgré cela, l'humidité nous fatigue, ce qui provoque la prolifération des vers de terre. Les bâches aussi doivent être changées fréquemment parce qu'avec le soleil, ça ne tient pas.
Quand la saison des pluies passe et que l'harmattan s'installe, les cœurs ne sont pas plus rassurés. Il y fait très froid. Pourtant, ils n'ont pas assez de moyens pour se protéger de la fraîcheur et de la poussière. Leurs biens les plus précieux sont des objets trouvés dans les poubelles, nous raconte Gespamba Ouedraogo. Le regard lointain, il explique que le propriétaire terrien leur loue l'espace à presque rien.
Le propriétaire du terrain de la localité, et vraiment, il a fait preuve de générosité avec nous. Il ne nous a pas exigé de payer un loyer. Nous avons juste pris l'initiative de lui donner de temps en temps quelque chose comme argent de notre cola en guise de reconnaissance. Pour ce qui est des habitats, c'est dans les poubelles que nous ramassons de vieilles bâches dont nous recouvrons les toits en attendant de pouvoir en acheter des neuves.
Vivre sur ce site, en plus d'être inconfortable, ne les laisse pas indemnes. Ils doivent fréquemment soigner de nombreuses infections, nous confie Pornyanga Ouedraogo. La vieille femme, d'environ 70 ans, semble fatiguée et désorientée.
En raison de l'humidité due à l'eau de pluie, il y a des vers de terre qui sortent du sol et qui grimpent parfois sur les enfants. On dépose de vieux sacs avant d'étaler les nattes sur lesquelles ils dorment. Mais malgré cela, on est donc obligé de veiller sur eux la nuit pour éviter que les bestioles ne pénètrent par exemple dans leurs oreilles. On a un enfant ici qui a développé des problèmes de peau. Voyez-vous même les cicatrices sur son corps.
« Cela fait maintenant 5 ans que Mumuni, Pornyanga et Gyasbamba vivent sur ce site. 5 ans de vie dans la crainte, l'incertitude et l'inconfort. 5 années lors desquelles, à chaque première tombée de pluie, leurs cœurs ne sont pas sereins. 5 années où, à chaque harmattan, ils regardent impuissants leurs enfants frileux. Pourtant, ils ne sont pas restés les bras ballants à Boromo. Ils trient des déchets plastiques qu'ils revendent. Un travail qui ne leur permet même pas de s'offrir 3 repas par jour.
La fille qui barre.
Vivre dans des conditions précaires comme celle décrite dans le reportage peut être source de nombreuses maladies et de traumatismes psychologiques, selon le docteur Karim Kombasere. Il ajoute toutefois qu'il est possible de s'organiser de sorte à limiter les risques d'infection. Il donne des conseils au micro de Awa Muniratu Tankwano.
Bonsoir docteur.
Oui, bonsoir madame.
Docteur, dans le reportage, des personnes déplacées internes vivent une situation précaire avec des abris de fortune dans une zone inondable. Que pensez-vous de cette condition?
C'est une situation difficile que ces personnes vivent et que chacun de nous ne souhaiterait pas vivre. Mais du fait de la situation sécuritaire, ces personnes vivent cette situation et vraiment, nous compatissons à cette situation. Et c'est délicat parce qu'ils sont dans des zones inondables et c'est une zone qui est forcément amenée à être un nid de maladies, surtout pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.
Justement, en parlant de maladies, quels sont les risques sanitaires liés à la précarité de ces abris-là?
Comme toute situation de précarité ou de regroupement de population, il y a des risques sanitaires, notamment liés aux maladies infectieuses. Vous savez, surtout en saison pluvieuse, quand il pleut, il y a une stagnation d'eau. Et donc, c'est le lieu de prolifération des moustiques. Et donc, le palu, la dengue, tout ça, ça c'est des maladies infectieuses qui peuvent survenir. Il y a des maladies liées aux conditions hygiéniques. Tels que les maux de ventre, les maladies diarrhéiques, la fièvre typhoïde, l'hépatite. Ça, ce sont des maladies qui peuvent survenir dans ces zones-là. On peut aussi avoir des plaies saisonnières pour les enfants. Et pas mal de situations. Ça peut même être un lieu d'éclosion d'épidémies, de petites épidémies liées à des maladies données.
Effectivement, dans le reportage, les différents intervenants témoins souffrir de ces maladies-là, mais aussi de démangeaisons et d'infections cutanées. Comment peuvent-ils faire pour prévenir ces infections-là, et malgré le peu de moyens qu'ils ont?
Pour ces personnes déplacées, il faut qu'ils prennent conscience que l'environnement dans lequel ils vivent doit être propre, doit être assaini. Et ça va permettre d'éviter beaucoup de maladies. Je pense que s'ils se mettent ensemble, ils vont organiser les habitats, ils vont organiser les abris et organiser de sorte que les déchets ne soient pas déversés un peu partout. En tout cas, je pense que s'ils s'organisent entre eux, ça va leur permettre d'éviter beaucoup de maladies. Et ce que je voudrais ajouter, c'est un appel à l'endroit de la population hôte qui peut les assister et aussi les autorités locales qui peut les assister à s'organiser et aussi à les venir en aide en termes d'alimentation, de nourriture, mais aussi de petits gestes sanitaires qui peuvent les permettre de se prendre en charge. Parce que cette situation, quoi qu'on dise, et ça va aggraver leur situation de précarité, mais aussi leur état de santé mentale et physique.
Docteur, je vous remercie.
Merci à vous.
Momo et Nafou.
Le petit garçon de Momo a paniqué lors d'un incident sécuritaire et est introuvable depuis lors. Dans ses recherches, Momo rencontre son ami Nafou qui profite, comme à son habitude, lui donner des conseils sur les réflexes sécuritaires à apprendre aux enfants. Des conseils qui pourraient être utiles pour tous les parents. Suivons ensemble.
Bonsoir Nafou. Bonjour.
Momo, tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe?
Tu n'as pas vu un petit garçon? Tu portes une culotte bleue avec une chemise noire? Il est un clair et un peu court.
Non. Mais Momo, s'il te plaît, explique-moi, qu'est-ce qui se passe?
Tu vois, alors qu'il jouait dehors avec d'autres enfants, oui, des individus armés ont fait éruption et ont commencé à tirer en l'air. Mmh. Les gens ont fui se cacher, mais lui, on ne sait pas où il se trouve.
Oh là là. Vivement qu'il soit sain et sauf et retrouvé vite, hein?
Cet enfant-là aussi, d'un.
Momo, ce n'est peut-être pas le moment, hein, mais je pense que si l'enfant a paniqué ainsi, c'est parce qu'il n'a pas reçu des consignes pour gérer ce genre de situation.
Nafou, comment ça?
Momo, si l'enfant avait été formé au bon réflexe, il aurait couru vers un abri sûr avec les autres enfants pour rester silencieux et caché dans un endroit sécurisé. Ensuite, il allait utiliser un moyen pour signaler sa position, soit avec le téléphone ou même avec un simple sifflet à un moment.
Ah oui. Donc si je comprends bien, tu veux dire que les parents doivent dire aux enfants que s'ils sont en danger, de se diriger immédiatement vers un lieu sûr prédéterminé, comme la maison, l'école ou même une station de police.
Exactement, Momo. On doit aussi leur donner des sifflets qu'ils vont utiliser pour signaler leur position. S'ils se retrouvent séparés du groupe, ils peuvent aussi utiliser un téléphone. Mais ce qui veut dire qu'ils doivent mémoriser le numéro de téléphone des parents.
Ah oui, je dirais aussi qu'ils doivent connaître le vrai nom de papa et maman. Il ne faudra pas que les enfants disent que leur mère s'appelle maman et leur père papa.
Ils sont capables, ces enfants-là.
Tout à fait.
Momo, je pense qu'on doit aussi dire aux enfants de ne pas se déplacer seuls. Surtout dans des zones où il pourrait y avoir des risques. De ne pas parler aux inconnus et ne jamais suivre des individus. Et aussi, hein, ne jamais prendre des cadeaux des inconnus, même s'ils ont faim.
Tout à fait. Écoute, tu me fais penser au fait que les parents doivent former les enfants qui ont l'âge au premier secours ou à d'autres compétences de sécurité. Comme ça, ils pourront aider les autres en attendant les secours.
Exactement.
Je me demande même s'il ne faut pas leur apprendre aussi les techniques d'autodéfense.
C'est vrai, hein, Momo. Comme ça, si quelqu'un essaie de les retenir par force, il y a des frappes techniques, hein, qu'ils peuvent faire et pouvoir fuir rapidement.
Nafou, merci. Merci pour tous ces réflexes que nous, les parents, devrons inculquer à nos enfants dans ce contexte d'insécurité pour mieux les protéger. Eh, Nafou, Dieu merci. En parlant même, voilà l'enfant qui arrive.
Dieu soit loué.
Amen.
Merci, mon Dieu.
Il m'a fait peur, ce gosse.
Voilà.
Kibar utile. Vivre un incident sécuritaire peut être traumatisant et laisser des séquelles psychologiques. C'est pourquoi il est important d'accompagner les victimes ou de se faire accompagner par des spécialistes. La Croix-Rouge Burkina offre justement cet accompagnement. Nelly Tapsoba s'est entretenue sur le sujet avec le docteur Joël Sandwidi. Écoutons.
Bonjour docteur Joël Sandwidi.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes psychologue à la Croix-Rouge Burkina. Nous abordons avec vous aujourd'hui la problématique de la prise en charge des personnes souffrant de traumatismes en lien avec l'insécurité. Au niveau de la Croix-Rouge, avez-vous un protocole de prise en charge de ces cas?
Oui, exactement, madame. Nous avons un protocole de prise en charge. Disons que au niveau de la Croix-Rouge Burkinabé, nous développons des points de service humanitaire que nous appelons les PSH. Nous avons un point de service humanitaire au niveau de Kaya et nous avons aussi un point de service humanitaire au niveau de Kangoussi. Mais nous faisons aussi des interventions rapides à travers ce que nous appelons le RRM, le mécanisme de réponse rapide. Et dans ces différents points de service humanitaire, nous fournissons en tout cas des prises en charge, non seulement pour les personnes déplacées interne, mais aussi pour les personnes hôtes.
Côté pratique, quand vous accueillez ces personnes-là, comment ça se passe?
Ok, merci madame. Lorsque nous accueillons nos bénéficiaires dans nos différents centres de prise en charge, nous faisons des entretiens individuels avec eux. pour d'abord comprendre ce qu'ils ont traversé et aussi détecter la souffrance psychique en question et apporter une prise en charge. Nous faisons aussi des thérapies de groupe à travers, par exemple, les groupes de parole, mais nous faisons aussi quelques activités communautaires, c'est-à-dire que en fonction des activités que ces personnes menaient avant leur déplacement, on essaie d'introduire ça au niveau des centres de prise en charge pour pouvoir recréer des liens, non seulement avec la communauté hôte, mais avec d'autres personnes déplacées internes. Et ces activités, pour la plupart du temps que nous faisons avec elles, sont entre autres des activités de saponification, de tricotage. Nous faisons aussi des activités de perlage avec elles, mais nous pouvons à tout moment développer une nouvelle activité en fonction des besoins, par exemple, de nos bénéficiaires. Et ces activités sont très importantes en ce sens que ça leur permet, par exemple, de recréer des liens entre elles, parce que parfois, avec le déplacement, il se trouve qu'elles sont déconnectées entre elles. Je parle des dames, même les hommes, ils sont un peu déconnectés de la réalité des choses. Et à travers ces petites activités, ils arrivent à tisser des liens avec des personnes qu'ils n'avaient jamais connues. Et facilement, ça permet de rompre l'isolement que ça crée après le déplacement. Donc, c'est ce que nous faisons. Mais aussi, lorsque il y a des déplacements de population, des alertes, nous appelons ça comme ça, nous dépêchons rapidement une équipe spécialisée dans le soutien psychosocial que nous envoyons sur le terrain. Et lorsqu'ils arrivent, ils font d'abord ce que nous appelons des psychoéducations. Et ces psychoéducations, ils essaient d'expliquer comment, par exemple, le déplacement pourrait affecter leur bien-être. Et lorsque les gens sont informés à temps de ce que ils traversent comme difficulté et ils comprennent mieux les signes et les symptômes qu'ils sont en train de développer, facilement on arrive à limiter, disons ainsi, la survenue d'une maladie mentale.
Et comment bénéficier des services de la Croix-Rouge?
Comme vous le savez, nous travaillons plus avec les personnes déplacées internes, les migrants, et pour bénéficier parfois des services de la Croix-Rouge burkinabé, surtout en matière de santé mentale, il faut être personne déplacée interne ou migrant, mais aussi nous prenons aussi la communauté hôte. Seulement qu'au niveau de Ouagadougou, nous n'avons pas un centre de prise en charge, malheureusement. Mais si c'est dans nos grandes villes, nous recevons tout le monde pour la prise en charge. Mais la priorité vraiment est accordée aux personnes déplacées internes et les migrants. Parce que parfois, c'est des critères d'éligibilité qui sont parfois aussi demandés par nos bailleurs. Mais nous sommes dans l'inclusion et nous prenons aussi en compte la communauté hôte.
Et cette prise en charge-là, elle est gratuite ou elle est payante?
Nous sommes dans l'humanitaire et tout ce que nous faisons au niveau de la Croix-Rouge burkinabé est gratuite. Tous les services que nous offrons est gratuit parce que nous recevons des financements de certains donateurs, voilà, de certains partenaires. Nous faisons vraiment de la gratuité pour la prise en charge psychosociale. Elle est vraiment gratuite et bien d'autres services.
Je vous remercie.
Je vous en prie, madame.
Bonne arrivée.
Cette semaine, nous nous rendons dans la famille Tao à Nagrengo. Bukari Tao et les membres de sa famille nous font part de leur expérience depuis qu'ils ont dû s'installer à Nagrengo pour fuir l'insécurité à Gaseliki, leur village natal. Ils nous parlent également de leur relation avec les populations de Nagrengo. Nelly Tapsoba.
Bonsoir, nous sommes à Nagrengo, nous sommes dans la famille Tao. Bonjour, monsieur Tao Bukari.
Bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
Alors, pouvez-vous nous dire de quelle localité vous êtes originaire?
À Gaseliki. À Gaseliki que nous sommes.
Et depuis quand vous êtes ici?
4 ans, comme ça.
4 ans. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous installer ici?
À cause de chercher le nœud, c'est le bas. Parce que les gens nous venir pour nous tuer. Il n'y a pas le moyen pour arrêter. Sauf on va courir chercher notre nez. Voilà.
Depuis que vous êtes ici, ça fait 4 ans. Comment ça se passe ici?
Ça s'est bien passé. Les gens qui sont dans les Moula, ils sont nous pris très bien. Ils sont pris nous très bien. Là, mais c'est comme si les cinéma. Bon, tout de suite, les gens là, nous sont aidés à manger avec le nourriture à soigner, nous. Ah, c'est comme cela seulement. Ah.
Donc, vous pouvez dire que vous vous sentez bien quand vous êtes arrivé ici. Les gens de Nagrongo vous ont bien accueilli.
En tout cas, les gens de Nagrongo nous avons pris nous très bien.
Donc, ça veut dire que vous êtes installé ici, là, vous ne voulez plus repartir.
Bon, si nous avons pu aller et retour, nous allons repartir. Mais si c'est comme cela, ah, c'est ici qui est bien.
Alors, je vais m'approcher de votre voisin. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Monsieur Zango Abdoulaye, vous êtes originaire de quelle localité?
Ngasaliki, nous sommes des déplacés. On est venu en Nagrongo. Bon, le chef de village nous a appris que nous sommes des étrangers. Il nous a appris comme la même chose.
Alors, vous dites que le chef de village vous a bien accueilli ici. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous?
Non, il nous donne du manger, nourriture, à faire de la santé. Il nous aide au nouveau. S'il y a des problèmes, si on les a expliqués, il peut nous aider. Et celui qui aide les gens est chef de village. Et avec le conseiller, le CVD, il nous a aidé beaucoup de choses. S'il a aidé, il peut nous appeler pour nous s'inscrire, pour nous aider. Tout de suite, ce que nous souhaitons seulement. S'il y a la santé, on peut les tourner ou nous en quitter. On veut aussi la santé seulement. S'il y a la santé, on peut les tourner chez nous, ce que nous souhaitons.
Vous venez de dire que quand vous êtes arrivé ici, les gens de Nagrongo vous ont bien accueilli, le chef de village vous a bien accueilli. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui?
Ce que nous allons leur dire, bon, c'est au niveau des aider. Bon, s'il n'y a pas le champ, bon, qui ne travaille pas, bon, au niveau des familles, il y a beaucoup de problèmes. Bon, si tu ne travailles pas, il n'y a pas bœuf, il n'y a pas de sève, il n'y a pas de choses que tu vas faire pour avoir la nourriture pour ta famille. C'est des problèmes.
Merci beaucoup. Bonjour.
Ah, il va laver.
La vie. Monsieur Tao Mamadou, depuis que vous êtes installé ici, comment vous trouvez la cohabitation avec les habitants de Nagrongo?
La cohabitation se passe très bien. Nous sommes ici depuis pratiquement 4 ans. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions les populations de Nagrongo. Vraiment, tout se passe bien. Nous ne savons pas quoi dire. C'est Dieu qui va les récompenser. Il s'occupe de nous, il nous respecte. Tout se passe bien.
Bonjour, Monsieur Tao Bougari. Nous parlions de la cohésion avec les fils et filles de Nagrongo. Qu'est-ce que vous avez ajouté?
Par la grâce de Dieu, nous sommes ici depuis 4 ans. Tout se passe bien entre nous. Ils nous ont bien accueillis à ce jour. Il n'y a jamais eu de problème. Nous les remercions. Que Dieu les bénisse. Ils nous ont donné des logements. Ils ne nous ont jamais demandé de payer. Vraiment, nous les remercions.
On va finir avec le chef de famille. Alors, qu'est-ce que vous avez à ajouter?
Ce que nous allons ajouter, la salutation de vous avec Jean de Nagrongo. Ah, c'est comme ça le cinéma que vous allez ajouter.
Merci beaucoup.
Oh, très bien.
À présent, la plage musicale de cette émission, et elle est assurée par Emerola Ouedraogo. On le retrouve en studio avec son invité, Awa Guindo.
Jali te kera fuye, jali denko. Sabu yala, tuya sabu ye mongo yala.
Musique Live aujourd'hui reçoit l'artiste Awa Guindo. Bonjour Awa Guindo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs en quelques mots?
Et je suis Awa Guindo. Je suis issu d'une grande famille de griots, donc je suis une griotte.
Vous avez à votre actif 4 titres. Le clip qui cartonne actuellement s'intitule FIFA. Oui. Qui est en langue Djula et qui veut dire éventail. Mm-hmm. Vous venez aussi d'une famille de musiciens, comme vous venez de le dire. Mm-hmm. Comment cela a-t-il influencé votre parcours artistique?
Et ça a été vraiment une grande chose pour moi parce que ça m'a beaucoup aidé. Et être issu d'une grande famille de griots, donc ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière.
En quoi est-ce que cela se ressent dans vos différentes compositions?
Oui, ça se ressent.
Comment on peut percevoir cela?
À travers mes textes et de mes chansons.
Ok.
Oui.
Ok, là c'est bien, votre père est l'artiste Lassina Guindo,
oui.
Un artiste chanteur bien connu. Comment est-ce qu'il vous a appris la musique? Comment est-ce qu'il vous a appris à chanter étant un griot?
Le fait de suivre mon papa seulement, c'est dans le sang quoi. Le
ça
fait,
ça
dès le bas âge. Okay. Depuis que j'avais 7 ans, mon papa il a été mon premier grand idole. Donc j'aimais ce qu'il faisait depuis le bas âge. J'ai essayé de tout faire, j'étais un peu curieuse quoi. Je voulais être comme lui au fait. Donc il était mon grand idole, il est toujours mon grand idole.
Tonya nana na kalifa. Jali chokoro balula. Ani jali musoro balubela. Kumba bedeni ala. Koma wili la nakala nakajugute nakale e ngaraluyo 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 yedwaye jali suni jali dauna mamarele kamora nalusona mankumba bebo nebebo nsiala Mata yosio sangara mamare yenye Olule wolula la sinegirola la sinegirole moirana Jali ala jali teke la fuye jali deko.
Félicitations pour cette belle performance, Awa Guindo qui nous chantait Jelia. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette chanson?
Et de cette chanson, on doit retenir que le Jelia, le griotisme,
le griot.
Oui,
okay.
Et c'est quelque chose, c'est pas une petite chose, c'est quelque chose de grand. Et le Jelia, on doit respecter le Jelia.
Nous tirons tout doucement vers la fin de notre entretien. Un mot pour vos fans qui sont à l'écoute actuellement et aussi à côté de Ilia, ces populations déplacées et autochtones qui vous suivent actuellement.
D'abord, je prie pour notre pays, cher pays, le Burkina Faso, que la paix revienne au Faso. Et pour ceux qui sont déplacés aussi, Je les donne le courage de ne pas se décourager et tout ce qui arrive, c'est Dieu qui a fait. Donc, Inch'Allah, tout va s'arranger. Ils ont tout notre soutien aussi. On est avec eux. Et je salue tous mes fans, tous ceux qui nous écoutent à l'heure là. Merci pour l'écoute. Je salue Sidio et Afa qui nous ont appelés. Et merci pour la confiance.
Merci beaucoup, Awa Guindo. Pour cet échange riche, nous vous souhaitons une carrière toujours plus brillante, empreinte de succès, de créativité et d'authenticité. Bonne continuation et plein courage pour vos futurs projets.
Inch'Allah.
Merci.
Merci beaucoup. Anitié.
Sarabila, Sarayel la Gafure Awala. Idola kasi manie idade Jali ala, jali teba nasiyaba Jali akadi
Voilà qui met fin à notre émission. Merci de votre écoute et de votre fidélité au programme de Studio Yafa, programme que vous pouvez suivre à tout moment sur le site www.studioyafa.org. À la semaine prochaine, Yafa, chez vous, la paix, chez vous.